Ce soir, nous revenons sur une conférence débat organisée par l'association ADN, Africain du Nord, le Cercle Henri Barbus de Culture Ouvrière et la Coordination Communiste. Le sujet, Subprimes, crack boursier, la crise et Marx. L'intervenant, Saïd Bouamama, socio-économiste et militant communiste. C'était le 31 octobre dernier à Lille. Ah, au fait, vous pouvez le télécharger sur le www.campuslille.com et le faire circuler autour de vous, bien sûr.
Le CAC abandonne à 15% à 4 326 points dans un gros marché de 1,8 milliards d'euros échangés, soit 18,350 millions de francs. Tous les marchés européens ont baissé. L'euro 50 au moment de la clôture de Paris perdait 1,5% environ. Et puis sur le marché d'échange, nouvelle baisse sensible de l'euro et le dollar vaut environ...
Casse-toi, connard. Ici, t'es sur Radio Campus.
Bien. Le nombre de personnes présentes me rassure et vous verrez, quand je dis rassuré, c'est une nécessité de la période, parce que ce qui est en train de se jouer, ce qui nous attend, ne sont pas des petites choses. Sans dramatiser, il faut avoir le courage de regarder la réalité mondiale et la réalité nationale en face et de pouvoir anticiper ce qui peut se passer. Alors je vais tenter aujourd'hui donc d'expliquer, de donner quelques grilles d'analyse de ce que nous vivons. Que nous soyons en crise, tout le monde en convient. Oui, mais quelle crise ? Crise de quoi ? Issue de quel mécanisme ? Est-ce vraiment une crise qui se limiterait à la finance ? C'est une crise simplement financière, comme on tente de nous le dire à longueur de médias ? Est-ce que l'injection de nouvelles liquidités par les États peut régler la question, puisqu'on tente de nous rassurer par des plans aux États-Unis de 700 millions de dollars, ici de 350 milliards ? Est-ce que cela va régler la question ? Quelles seront les conséquences de cette crise également ? Étrange silence des médias sur cette dimension-là. Qui va payer cette crise ? Quelles sont les conséquences concrètes ici, mais aussi dans les pays du Sud ? Toutes ces questions et bien d'autres sont dans la tête des citoyens. Et le peu que l'on puisse dire, c'est que les explications officielles et médiatiques ne nous aident pas à comprendre la situation. La raison en est simple. Ils nous mentent. La raison en est simple, ils nous mentent, et ils ne nous mentent pas par plaisir de nous mentir. Ne sombrons pas dans des explications machiavélistes de l'histoire, ce n'est pas un choix de mentir. Mais c'est tout simplement les classes dominantes de la planète n'ont pas intérêt à ce que nous comprenions la réalité des causes, des mécanismes et des conséquences de cette crise. S'ils pouvaient ne pas nous mentir, ils ne nous mentiraient pas. C'est parce que ne pas nous mentir, c'est ouvrir à notre lucidité. Pour ouvrir ce débat, je voudrais aborder avec vous successivement quatre dimensions qui me semblent incontournables pour comprendre ce que nous vivons, mais aussi malheureusement ce que vivront nos enfants. Premièrement, les fausses explications de la crise qu'on nous diffuse à longueur de médias et la raison d'être de ces fausses explications. Secondo, le déroulement du scénario. Comment cela s'est-il enclenché et vers quoi cela nous mène-t-il ? Troisièmement, la véritable nature de la crise et sa signification. Et quatrièmement, les conséquences prévisibles que l'on peut d'ores et déjà annoncer sans pouvoir bien entendu les quantifier. Nous pourrons alors, à l'issue de cette présentation en quatre temps, débattre, parce que l'essentiel est dans le débat aujourd'hui. L'essentiel est dans notre capacité, à partir de notre perception des enjeux, de réagir. L'homme, nous disait Marx, fait librement son histoire, mais dans des conditions non librement déterminées par lui. Nous n'avons pas choisi cette crise, mais nous avons le choix aujourd'hui de savoir si nous allons rester passifs face à ce qu'il nous prépare, la misère, la guerre et la mort, ou si nous serons capables de réagir, et chacun individuellement comme collectivement, de prendre nos responsabilités historiques dans la situation d'aujourd'hui. Commençons donc par les fausses explications. Il n'est pas possible, en un temps aussi court, de les décrypter dans leur exhaustivité, mais je voudrais en souligner au moins trois. Trois mensonges qu'on nous diffuse aujourd'hui à longueur de médias. Trois mythes sont diffusés à longueur d'antenne et de discours officiels de nos politiques depuis le début de la chute des cours boursiers. Ces mythes et ces mensonges sont liés entre eux et ils s'enchaînent l'un l'autre. Le premier, c'est le mythe sur la cause de la crise. Le second, c'est le mythe sur les solutions possibles à cette crise. Et le troisième, c'est le mythe sur les conséquences de cette crise. Abordons le premier, les causes de la crise. On tente de nous faire croire que la crise serait uniquement une crise financière, qu'elle se cantonnerait à la finance. Ce mythe est diffusé sous de multiples formes. Vous les avez entendues dans les médias. Certains parlent de crise de l'argent fou. Il y aurait un argent qui ne serait pas fou et un argent qui serait fou. Et notre problème serait l'argent fou face à un autre argent qui ne serait pas fou. On nous dit également que cette crise viendrait d'un manque de régulation des finances, sans nous expliquer si la régulation des finances est possible dans le sein de ce système. On nous dit également que c'est une crise de confiance liée à quelques financiers véreux, mais que l'économie globalement serait saine. On nous annonce également que la crise provient d'une spécificité précise, les USA. Ce serait quelque chose de particulier aux USA, et en particulier des prêts exagérés accordés à des ménages américains insouciants pour l'achat de leur maison. Ainsi, Fillon nous parle de dévoiement de la finance et McCain de l'irresponsabilité des banquiers. L'objectif de ces discours est clair. Il s'agit de masquer à nos yeux qu'il s'agit d'une crise du système qui était annonçable et qui avait été annoncée. Il y a 8 ans, Samir Amin, un grand économiste, annonçait une déflagration mondiale au niveau économique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il s'agit de masquer également l'origine de cette crise. Il s'agit de masquer que cette crise provient d'une dimension essentielle, la mondialisation. Ce processus, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on nous a présenté comme incontournable, comme nécessaire, comme processus sur lequel les hommes n'auraient pas prise, cette mondialisation, elle signifie une chose précise, la compression du pouvoir d'achat sur l'échelle de la planète des salariés, c'est-à-dire la paupérisation relative et absolue, conduisant inévitablement à la crise. Et je tenterai de le montrer. Quelques chiffres pour souligner cela, que je prendrai dans le cœur du système capitaliste, les USA. Entre 2000 et 2007, le revenu moyen, tout compris, profit comme salaire, le revenu moyen, hein, vous savez, les économistes bourgeois aiment prendre la somme de la production annuelle et diviser en nombre d'habitants. Ça, c'est le revenu moyen. Il s'est accru d'environ 2,5%, alors que le revenu salarié moyen, celui des travailleurs, s'est accru de 0,1%. 2,5% d'un côté, 0,1%. Rien que ces chiffres-là nous indiquent ce qu'a été la mondialisation, le transfert du pouvoir d'achat des salariés vers les profits et les dividendes. Et si on regarde maintenant le salaire réel moyen, parce que lorsque je parle de salaire moyen, c'est ce que vous avez sur votre fiche de paye. Si vous prenez le salaire réel, c'est le bleu pouvoir d'achat que permet ce salaire moyen, eh bien, il s'est effondré de 5%. Mais dans le même temps, le coût des assurances santé a augmenté de 68%. Celui des coûts d'éducation d'un ménage américain pour ses enfants, de 46%. C'est cette paupérisation. Je l'ai dit pour les USA, c'est valable pour la France, je donnerai d'autres chiffres tout à l'heure. C'est cette paupérisation qui a conduit les classes moyennes aux USA. Ça n'a pas été les milieux populaires. Les milieux populaires aux USA étaient déjà dans la misère, ils étaient déjà dans des taudis. C'est ça qui a conduit les classes moyennes vers des prêts hypothécaires, vers le crédit en général, et qui va déclencher cette dernière crise. Il n'y a aucune folie du système dans ce que je décris là, mais simplement une logique économique implacable. Quand on comprime les revenus salariaux pour augmenter les profits, on produit inévitablement une baisse de la demande solvable, c'est-à-dire une baisse de la capacité de la société à acheter les productions qui sont réalisées. Pour colmater cette brèche, on a diffusé du crédit. Le crédit, c'est la drogue du capitalisme en crise. Nous avons affaire à un capitalisme drogué, j'y reviendrai tout à l'heure. Et l'emballement de la machine du crédit n'est pas dû à quelques financiers véreux, mais le propre de cette logique-là, pour masquer l'incapacité de vendre les produits réalisés parce qu'il y a baisse du pouvoir d'achat, il faut diffuser du faux pouvoir d'achat par l'intermédiaire du crédit, qui à un moment ou à un autre explose. Regardez autour de vous, un État fonctionne de la même manière qu'une économie individuelle. Vous connaissez des ménages surendettés qui ont, pour masquer leur crise, ont repris du crédit, qui a encore accru leur crise jusqu'au moment où ça devient impossible. Nous avons eu la même chose à l'échelle de chaque État et à l'échelle du monde aujourd'hui. L'origine de la crise financière n'est donc pas à rechercher dans la finance, mais dans la mondialisation capitaliste qui s'est mise en place depuis une trentaine d'années. Cela est d'autant plus vrai que lorsqu'on nous dit que c'est une crise financière, on nous ment sur un second aspect. On essaye de nous faire croire qu'il y aurait d'un côté un capital industriel, un bon capital, et de l'autre côté, donc un capital qui investit de l'argent, qui prend des risques pour avoir des profits raisonnables, et de l'autre côté, un mauvais capital qui serait le capital financier, qui lui serait véreux, etc. On oublie tous les changements du XXe siècle. Déjà en 1916, Lénine écrivait un ouvrage qui s'appelait « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », et il nous disait dans cet ouvrage que la principale transformation du monde par rapport au XIXe siècle, c'était l'émergence du capital financier. Et comment définissait-il ce capital financier ? Il le définissait comme étant la fusion du capital bancaire et du capital industriel. Ce sont les mêmes qui possèdent les grandes industries et qui possèdent la finance. Dans chaque bilan d'entreprise industrielle, les grands groupes industriels, si vous regardez le bilan, vous verrez la part des profits qui provient de la spéculation. A l'inverse, si vous prenez un bilan d'une banque, vous verrez la part de son budget consacrée à l'achat d'actions dans les entreprises. Il n'y a pas d'un côté le capital financier, de l'autre le capital industriel. Il n'y a pas d'un côté la production et de l'autre côté la finance. Il y a une fusion depuis près de d'un siècle entre capital bancaire et capital industriel. D'ailleurs, vous pouvez tous le remarquer. Je suis sûr que certains d'entre vous font leur course à Auchan, comme moi. Je n'ai pas le temps et que je fais une course une fois par semaine, je vais à Auchan. Mais depuis quelques années, on m'a proposé une carte Auchan, qui est une carte bancaire. Voilà un groupe qui fait partie d'une dimension industrielle qui offre des services bancaires. Mais pour ceux qui sont à Michelin, vous avez vu la même chose. À F, etc. On vous offre des cartes de crédit partout. Qu'est-ce à dire ? Ben que nous n'avons plus affaire à un capital industriel qui serait uniquement dans le monde industriel et à un capital financier qui serait autre. Le capital industriel investi dans la finance et le capital bancaire investi dans l'industrie. De la même façon, chaque entreprise a son fonds de roulement qui est investi en capitaux spéculatifs. Le capital mondialisé que nous connaissons, et je reviendrai sur ce terme mondialisation après, c'est le règne de l'actionnariat sans limite. Autrement dit, les fonds d'investissement, les banques, etc., les grandes entreprises, achètent des actions dans les secteurs porteurs et imposent ensuite aux chefs d'entreprise un pourcentage de bénéfices, les dividendes des actions, qui est toujours supérieur à celui de l'année précédente. Alors comment est-ce possible que des personnes qui sont extérieures à l'entreprise, qui ont acheté des actions, puissent imposer ces dividendes sans cesse en augmentation? Il n'y a que trois moyens pour le réaliser. Et la crise, c'est le résultat de l'utilisation de ces trois moyens. Premier moyen, réduire les coûts de production. Autrement dit, produire plus et plus vite. Dans le même temps où le nombre de chômeurs augmente, ceux qui gardent un emploi sont plus exploités que par le passé. Ils ont des cadences plus importantes, ils ont des pauses moins importantes, etc. Second moyen utilisable, réduire la masse salariale. Troisième moyen utilisable, diminution des investissements pour satisfaire la demande immédiate de dividendes. Autrement dit, la logique du système avant même la crise conduit à la paupérisation, conduit aux délocalisations pour diminuer la masse salariale, à la délocalisation sur place, c'est-à-dire à l'importation de sans-papiers, pour la même raison, avoir une masse salariale moins importante, et surtout conduit au passage d'un système qui fonctionne sur la recherche du profit moyen à la recherche aujourd'hui du profit maximum. On ne ferme plus une entreprise parce qu'elle ne produit pas de profit, on ferme une entreprise parce qu'elle ne produit pas assez de profit. Et je pense que cette dimension-là est essentielle à avoir en tête. Même une entreprise qui produit du profit, si un autre profit est possible ailleurs et meilleur, on fermera l'entreprise. Autrement dit, la crise est issue du monde de la production et c'est seulement ensuite transmis au monde de la finance et non l'inverse comme on essaie de nous le faire croire. Le monde n'est pas dominé par la seule finance comme on voudrait nous le faire accroire, mais par quelques oligopoles d'énormes entreprises multinationales qui ne sont pas constituées que par des banques ou des assurances, mais par des groupes qui agissent à la fois dans la banque et à la fois dans la production industrielle, le transport, les services. Ce sont les mêmes qui possèdent l'ensemble. C'est cela le capital financier, la fusion du capital bancaire et du capital industriel. Le second mythe qu'on essaye de nous faire passer dans les esprits, c'est le mythe sur les solutions. Vous l'avez tous entendu ces dernières semaines, nous allons injecter des liquidités dans le système et enfin ça ira mieux. Alors 700 millions de dollars aux USA, 350 milliards en France, enfin en Europe, pardon. Hein, 700, qu'est-ce que j'ai dit? 700 milliards, 700 milliards. Donc on a des chiffres comme ça, ces chiffres nous donnent le vertige. Parce que si on compare à nos salaires, on n'arrive même pas à imaginer ce que cela peut vouloir dire. Mais est-ce que cela peut résoudre ce phénomène de crise? Si elle n'est pas d'origine financière, l'injection de liquidité ne peut pas résoudre la question. Si effectivement la question de fond, c'est la baisse du pouvoir d'achat sur l'ensemble de la planète du côté des salariés, vous pourrez investir autant que vous voulez de liquidité, vous pourrez au juste gagner du temps, faire reculer la crise, mais vous ne la réglerez pas. À partir du moment où vous ne traitez pas la cause, vous ne pouvez pas avoir une transformation des conséquences. D'autant plus que l'on sait que, même si la crise vient de l'économie réelle, de la production, qu'elle s'est transmise dans la finance, elle a aussi des retombées. Nous sommes, un des apports de Marx a été de nous montrer l'importance de la dialectique, c'est que le mouvement continue et il y aura effectivement des effets sur l'économie réelle en plus. Alors c'est quoi ces effets? Bien, d'une part, les banques fragilisées, parce qu'elles ont aujourd'hui des dettes qui ne correspondent à plus aucune valeur, les banques fragilisées par l'accumulation de mauvaises dettes vont réduire leur crédit. C'est ce qu'on appelle dans le langage économique. Vous savez, les économistes aiment bien s'inventer un langage pour que le citoyen moyen ne comprenne pas et dise c'est trop compliqué, c'est l'affaire des experts, je ne dois pas m'en intéresser. C'est ce qu'ils appellent les credit crunch. Ce retour, donc cette baisse du crédit qui va toucher l'industrie, va conduire à une nouvelle baisse de la demande solvable des ménages. C'est-à-dire que le crédit qui permettait de droguer le capitalisme va être au moins pour quelques mois moins disponible pour les ménages et ça va donc renforcer la crise. Troisièmement, cela aura des effets sur les entreprises qui d'une part auront un crédit plus difficile et d'autre part sont touchées parce qu'une partie de leur richesse est en dévalorisation aujourd'hui du fait de cette même crise. L'injection de liquidités, autrement dit, correspond à l'opération de colmater les brèches parce qu'on ne touche pas à la racine de la crise, la baisse du pouvoir d'achat. Et quand je dis ça, ça n'est pas un slogan idéologique. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure sur ce que nous avons vécu en 30 ans, ce que les salariés ont vécu en 30 ans à l'échelle de la planète. Tant qu'on ne touchera pas au fond de cette crise, c'est-à-dire la part des dividendes dans le partage de la richesse nationale. Avant la mondialisation, donc avant les années 80, la part des dividendes dans la richesse nationale, enfin dans le produit de l'entreprise, était de 5%. L'investisseur s'estimait heureux, ça va aller ?
Très bien, il y a un problème technique.
L'investisseur s'estimait heureux s'il obtenait 5% de dividendes en augmentation. Aujourd'hui, la moyenne des dividendes est de 20%. C'est dire comment on est passé d'un capitalisme qui était déjà problématique parce qu'il nous exploitait à un capitalisme qui n'a pas de limite dans le fait de piller le pouvoir d'achat des salariés. Troisième mythe qu'on nous diffuse, troisième mensonge, le mythe sur les conséquences. Peut-être que Sarkozy vous a rassuré. Vous avez tous entendu, des centaines de milliards de dollars et d'euros vont être investis et rassurez-vous, vos épargnes ne vont pas être touchées. D'où vient cet argent? Il faut se poser des questions basiques. D'où vient cet argent? Comment peut-on investir de telles sommes sans que cela ne coûte à personne? En fait, Les États investissent cet argent en empruntant sous différentes formes sur les marchés financiers. Pour sortir de leur crise, ils doivent se droguer encore plus. J'ai dit qu'on était à l'époque du capitalisme drogué, ils doivent se droguer encore plus. Ils vont emprunter sur les marchés financiers en offrant comme garantie le remboursement de l'État. Ils espèrent bien entendu récupérer en se disant, mais comme au poker, je parie sur le fait que les banques vont s'en sortir. Et donc elles vont pouvoir nous rembourser. Et on pourra rembourser l'avance des fonds étatiques. En réalité, ces fonds viennent grossir le déficit public. Ce qui veut dire très concrètement qu'il faut être lucide. Dans les années à venir, on nous dira, sous prétexte d'unité nationale, M. Sarkozy en a déjà parlé, sous prétexte de réalisme, sous prétexte de tenir compte de la crise, eh bien, d'être un peu plus modeste en termes de remboursement des soins de santé, d'être quand même réaliste sur la question des retraites, d'être quand même réaliste sur le fait qu'on est obligé de diminuer les budgets de l'éducation nationale et que si les enseignants ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ne sont pas solidaires au niveau national. Bref, la seule manière de payer les investissements massifs de fonds aujourd'hui, c'est pour les années qui viennent, la restriction massive dans les budgets sociaux. Il nous prépare une paupérisation absolue et relative pour les cinq années qui viennent, qui n'a aucune comparaison avec ce que nous avons vécu les cinq dernières années. Nous avons perdu en pouvoir d'achat, mais ça a été du progressif. Là, pour résoudre ce type de crise, j'évalue, mais bien entendu, si je me trompe, ça ne sera pas significatif. Je pense que c'est au minimum 20% de réduction du pouvoir d'achat dans les 5 ans qui viennent. Autrement dit, les couches moyennes auront le niveau de vie des ouvriers qualifiés aujourd'hui, les ouvriers qualifiés le niveau de vie des ouvriers spécialisés, les ouvriers spécialisés le niveau de vie des RMistes, et les RMistes seront dans la misère complète et ressembleront aux pauvres du tiers-monde. Voilà ce qu'on nous prépare aujourd'hui, et ils savent que ça peut provoquer des conflits sociaux, alors ils se préparent autre chose. Le durcissement de la répression contre les mouvements, la préparation de la capacité de l'armée à intervenir pour les contestations civiles. Voilà ce qui est en négociation aujourd'hui dans les projets de loi et dans les réflexions des classes dominantes aujourd'hui. Alors, si on a en tête ces trois mensonges vis-à-vis de la crise, et en tant que matérialiste, il faut toujours commencer par l'effet premier, ce qu'on nous dit, avant d'aller regarder ce qu'il y a derrière, comment s'est déroulé le scénario. Alors, d'abord la cause immédiate de ce scénario. On parlera ensuite des causes profondes, des causes réelles, mais la cause immédiate, conjoncturelle, celle qui a enclenché les choses. On ne peut la comprendre que par deux tendances contemporaines, et ces deux tendances, c'est ce qu'ils appellent mondialisation, bien entendu sans jamais nous mettre la définition dans le mot mondialisation. Alors précisons d'abord ce qu'est la mondialisation. Vous aurez compris qu'une des propositions de combat qui doit être le nôtre, c'est qu'il faut sortir de cette mondialisation, il faut imposer une sortie de la communauté économique européenne, parce que ce mécanisme-là nous pousse à la logique de crise que nous avons vue. Qu'est-ce que la mondialisation ? Ça n'est pas comme on essaye de nous faire croire un mouvement incontournable qui serait lié au progrès technique. Quand on écoute certains, on a l'impression que le progrès technique nous a obligés à mondialiser et qu'il faut vraiment être ringard et nostalgique du passé pour s'opposer à la mondialisation. Non, la mondialisation, c'est une série de décisions concrètes qui mettent directement en concurrence les capitaux sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qui poussent tout le monde sur l'ensemble de la planète vers le bas. Autrement dit, il faut casser la mondialisation de même que ses instruments, et la communauté européenne en est un. Ce qui caractérise la mondialisation aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition entre un bon capital industriel et un mauvais capital financier, mais l'hyper-concurrence entre capitaux partout sur la planète, qui ne signifie rien d'autre que l'hyper-concurrence entre travailleurs. À chaque fois que l'on vous dit il faut favoriser la concurrence entre les capitaux parce que c'est un moteur de l'économie, entendez, il faut favoriser la concurrence entre les travailleurs. Entre les travailleurs du Sud et les travailleurs du Nord, mais à l'intérieur du Nord, ici aussi, le pays industrialisé, la concurrence entre les travailleurs, c'est ça qu'on nous construit aujourd'hui. La mondialisation a une origine. La transformation des rapports de force à l'échelle mondiale. La disparition des pays de l'Est, pays socialistes à l'Est. L'affaiblissement de la lutte des pays du tiers-monde, qui avait réussi à imposer avec les indépendances, puis avec les politiques nationalistes de nationalisation du pétrole, etc., un certain nombre de concessions, la baisse des luttes sociales dans les pays industrialisés, ce changement des rapports de force qui commence dans les années 75 et qui est joué à la fin des années 70, eh bien c'est ça qui a permis la mondialisation. Cette mondialisation, elle a une datation. Elle est enclenchée par Reagan aux USA et Thatcher en Angleterre, mais également le Chili, avec l'assassinat d'Allende par Pinochet. Elle a également un contenu. Partout sur la planète, nous assistons aux mêmes choses. Privatisation, déréglementation, compression budgétaire, diminution de la taille des gouvernements, tarification des services publics, rentabilisation des services, fiscalité favorable à l'investissement privé, fluidité de la force de travail, c'est-à-dire précarisation, remplacement des contrats à durée indéterminée par des contrats à durée déterminée, par l'intérim, par la sous-traitance, par la délocalisation et par la délocalisation sur place, c'est-à-dire l'importation de sans-papiers. Cette première tendance est depuis le début des années 80 traduite par un transfert massif du pouvoir d'achat des salariés vers les dividendes. Partout sur la planète, la part des richesses produites qui revient aux salariés est à la baisse et celle revenant au profit est à la hausse. Comme on nous a culpabilisé en nous disant que c'était ringard d'utiliser les concepts qui étaient ceux des milieux populaires, et en particulier les concepts marxistes, eh bien, je dirais dans un langage marxiste qui est trop souvent abandonné aujourd'hui, que ce que je viens de décrire là, c'est tout simplement ce que Marx appelait la hausse du taux d'exploitation à des niveaux inconnus depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette hausse de l'exploitation, elle s'est effectuée par le blocage des salaires, c'est-à-dire par la baisse du pouvoir d'achat, l'intensification des cadences, la hausse de la journée de travail, la baisse des budgets sociaux, c'est-à-dire du salaire indirect. Et les outils, on les connaît. Ils ont exactement le même contenu. Quand vous regardez ce que propose la communauté européenne et ce qui est proposé au tiers-monde par les plans d'ajustement structurel, vous pouvez faire la photocopie. C'est exactement les mêmes mesures. Réduction des budgets de l'État et des services publics, il faut bloquer les salaires, il faut déréguler et ouvrir les frontières, etc. Ce sont les mêmes choses qui ont produit au sud de la misère et ici la baisse de notre pouvoir d'achat. Alors, ça c'est la première tendance. La deuxième tendance, donc baisse du pouvoir d'achat massive à partir des années 80. Mais après tout, cela aurait pu ne pas déboucher sur une crise comme la nôtre. Si cela s'était traduit par une augmentation des investissements. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur pouvoir d'achat, avec leur revenu supplémentaire, là, les dividendes? Ont-ils développé l'investissement? Bien non. La deuxième tendance est le fait que ces ponctions sur les salaires, c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat, n'a pas été traduit en investissement supplémentaire. Et là, on voit bien l'inconsistance de ce système. Il y a un théorème qui a été émis par Helmut Schmidt, qui était un chancelier allemand, et qui a été répété à longueur de médias. En économie, on vous l'a appris, pour ceux qui ont fait, rappelez-vous, vos cours de terminale, hein, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, qui sont les emplois d'après-demain. Et pendant deux décennies, on nous a balancé ça, etc. Sauf que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit de quoi? Les profits d'hier n'ont pas été les investissements d'aujourd'hui. Autrement dit, ces dividendes supplémentaires n'ont pas été investis dans la production industrielle. Non pas que les capitalistes, d'un seul coup, aient eu la peur de l'industrie ou n'aiment pas l'industrie, c'est pas ça. C'était plus rentable d'aller dans la spéculation. Et donc, on a eu un théorème qu'on pourrait dire, les profits d'aujourd'hui, c'est la spéculation d'aujourd'hui qui produit la crise d'aujourd'hui. Et non pas, comme nous disait Schmitt, les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Dans un langage marxiste, on dirait le taux d'accumulation ne s'est pas développé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette masse de plus-value qu'on vous a extorquée en tant que salarié, ce qu'on vous a volé, n'a pas été distribuée sous forme de revenus financiers et non pas sous forme d'investissement industriel. C'est ce qu'ils appellent la financiarisation, mais en fait, cette financiarisation n'est rien d'autre, là encore, pour employer un vocabulaire marxiste. Donc vous aurez compris que je vous invite à reprendre notre vocabulaire, hein, de marxistes, de libération nationale, de lutte des peuples, etc., qu'on a trop souvent abandonné, c'est le découplage entre le taux de profit et le taux d'investissement. On a d'un côté un taux de profit qui augmente et d'un autre côté un taux d'investissement qui diminue. Eh bien, où va cet argent ? À la bourse, dans la finance. La crise de la finance n'est donc pas que le résultat de la crise de la production réelle, la crise de la production réelle, quand les taux de profit augmentent et que c'est plus rentable de spéculer que d'investir, chaque capitaliste individuellement maximise son profit en allant en bourse. Il n'y a pas de mauvais capitalisme de la finance et de bon capitalisme de l'industrie, les deux sont liés, c'est de la même crise dont nous parlons. Ça, c'est la première étape de cette crise. La cause, c'est cette dissociation entre taux de profit en augmentation et taux d'investissement en baisse. Bien entendu, très tôt, dès les années 90, cette contradiction, les dominants de la planète l'ont perçue. Vous inquiétez pas, si les milieux populaires ont malheureusement trop peu de personnes qui se consacrent à l'économie, à la sociologie, etc., eux ont des dizaines et des centaines de personnes qu'ils payent pour anticiper les choses, et ils ont eu effectivement un certain nombre de prévisions qu'ils ont anticipées. Alors, faire face à cette contradiction, lorsque je ne veux pas que mes profits diminuent, eh bien, je me drogue. C'est la place du crédit. Pour masquer cette crise inévitable, on a diffusé du crédit extrêmement facilement. Dans l'ensemble des pays, on a eu une croissance à crédit. On a diffusé du faux pouvoir d'achat, uniquement pour avoir une rentabilité immédiate. La croissance à crédit suppose deux éléments. Et je peux vous garantir que, quand on regarde les chiffres, ce sont les USA qui sont le pays le plus endetté et le pays qui a le plus développé cette croissance à crédit. À l'interne de chaque État, donc à l'intérieur de la France, ça suppose de diffuser du faux pouvoir d'achat. Il est faux, ce pouvoir d'achat, parce qu'il se paye toujours. On finit toujours par le rembourser, et le rembourser avec des intérêts énormes. Ça permet de compenser la baisse du pouvoir d'achat, hein, puisqu'on va masquer par ce pouvoir d'achat venant du crédit le vrai pouvoir d'achat. Et à l'externe, eh bien, c'est l'attirance, l'importation par les pays industrialisés, les grands pays industrialisés, des capitaux qui proviennent du reste du monde. Comment ? Eh bien, par l'invention de la fausse monnaie, les bons du trésor. Les bons du trésor, c'est de la monnaie fictive. Je n'ai pas assez d'argent en tant qu'État parce que je suis dans cette crise. Eh bien, je produis des milliards de bons du trésor que je garantis sur le budget de l'État et que je vends à l'extérieur. Tout cela masque la baisse du pouvoir d'achat des salariés à l'interne et la baisse du pouvoir d'achat de l'État en tant que tel. Autrement dit, nous sommes à l'époque, non pas du capitalisme, mais à l'époque du capitalisme drogué, à l'époque du capitalisme sénile, qui a besoin de drogue pour se maintenir. C'est à ce niveau que va intervenir la finance, et pas à l'origine. La finance n'est pas un accident, elle n'est pas le fait de quelques spéculateurs véreux. Elle est une conséquence inévitable du système. À l'interne, comment on va faire ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi d'employer un mot barbare, un mot économiste barbare, mais ça sera pour vos soirées mondaines, comme ça vous pourrez dire que vous connaissez, c'est la titrisation. La titrisation, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que on va vendre sur le marché financier des créances. J'ai prêté de l'argent à des citoyens pour qu'ils s'achètent leur maison. Eh bien, ces créances-là, ces dettes qu'on me doit, je vais les vendre à la bourse. Et bien entendu, les acheteurs vont rajouter leur intérêt dans l'espoir d'avoir un intérêt supplémentaire. Et cela, ça s'est fait dans toute une série d'opérations. Bien entendu, la crise que nous vivons maintenant, c'est la crise des prêts hypothécaires, mais nous sommes sur la plus petite aspect de la titrisation. C'est beaucoup plus vaste que cela. C'est-à-dire que les crises qui s'annoncent, si nous ne sommes pas capables d'agir, sont des crises beaucoup plus profondes. En réalité, on a fait de manière beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle en économie les papiers commerciaux adossés à des actifs. C'est quoi ? C'est les prêts bail de l'automobile. C'est les crédits sur les retraites, dans les pays où il y a retraite par capitalisation. C'est-à-dire que ce que l'on vit avec les prêts immobiliers, ça n'est que le haut de l'iceberg du développement du crédit à n'importe quel prix pour masquer la crise du système. C'est également les crédits à la consommation, etc. Et outre ces papiers commerciaux adossés à des actifs, on a une autre dimension qui arrive juste après. C'est ce qu'on appelle, dans le langage économique, les alto-mortgage. C'est quoi ? C'est des crédits, parce que là j'ai dit par rapport à la retraite, etc. Là c'est tout simplement des crédits à la consommation. Des crédits à la consommation qui sont construits de telle sorte à amener le citoyen à dépenser plus que ce qu'il ne peut avoir. Comment ? Eh bien on va lui dire qu'il n'est même pas contraint de rembourser la totalité des intérêts pendant les 3 premières années. On commence à avoir les premières publicités comme ça en France. Hein. Emprunter, c'est à un taux de 15%, mais les 3 premières années, vous allez rembourser que 5%. L'intérêt, hein, vous allez rembourser 5% d'intérêt. L'illusion, elle est là. C'est que, bien entendu, les intérêts sont reportés sur les années d'après. Et d'un seul coup, à partir d'une échéance, eh bien, on a le remboursement qui arrive. Le record de ces intérêts après 3 ans a été atteint aux États-Unis, imaginez-vous, 63% d'intérêt. Ceux qui ont emprunté 1 dollar devaient en rembourser 63. Alors, bien entendu, pendant les 3 premières années, un remboursement modeste, et puis d'un seul coup, le couperet tombait. Ben, ces personnes, après, vendent leur maison, sont contraintes de vendre leur maison, leur voiture, etc., et sombrent dans la misère. Alors, juste pour vous dire l'ampleur des choses, les crédits hypothécaires, les fameux subprimes dont on vous a parlé dans les médias, peuvent s'évaluer à 855 milliards de dollars. Les crédits à la consommation du style alto-mortgage que j'ai décrit tout à l'heure s'évaluent à 1000 milliards de dollars. Autrement dit, les crises qu'ils vont nous annoncer dans les mois et les années à venir sont d'une ampleur au moins égale à celle qu'on vient de connaître, si ce n'est plus. Alors l'opération est simple. Je vais garantir le risque sur certains titres, hein, mes prêts hypothécaires par exemple. Je vais les garantir par d'autres titres. J'invente d'autres titres qui sont censés garantir les premiers. C'est le poker. On est dans un système de poker. Cette garantie est fictive. Il suffit que le prix des maisons baisse pour que tout s'écroule. Il suffit que la confiance soit atteinte pour que tout s'écroule. Par exemple, les papiers commerciaux adossés à des actifs ont connu une chute de 430 milliards de dollars en 6 mois. On n'est pas sur des petites sommes de quelques millions, on est sur des sommes 430 millions de dollars.
En revanche, les investisseurs ont été déçus. Le chômage de longue durée est en hausse. Le gouvernement va encore aggraver la situation.
Ainsi que par le recul de l'indice des directeurs d'achat de Chicago.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés.
En écoutant l'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur le saucisse pois chiche de Radio Campus.
Alors, pour ne donner que quelques chiffres sur les conséquences, ce n'est pas les chiffres qu'il faut retenir, hein, parce que c'est impossible, y compris moi quand je lis ces chiffres, j'arrive même pas à imaginer ce que ça peut signifier. Mais ce qui est important, c'est la tendance. Entre 1994 et 2003, le moment magique du crédit facile aux USA, 9 millions de ménages américains locataires sont devenus propriétaires. Encore une fois, ce n'étaient pas les milieux populaires qui ont hypothéqué leurs maisons. Eux, ils étaient déjà dans la misère. C'était les couches moyennes qui, avant, avaient les moyens d'acheter des maisons, qui, là, ne l'avaient plus, étaient obligés de prendre des crédits catastrophiques. Ce qui est actuellement en jeu aux USA, c'est ce que connaîtront les profs, les travailleurs sociaux, les couches moyennes françaises, dans 4, 5, 10 ans, c'est-à-dire la paupérisation contrainte à aller vers du crédit, qui est du crédit aléatoire et du crédit dangereux. Pendant la même période, les prêts hypothécaires à haut risque, c'est-à-dire ceux dont on n'était pas certain du remboursement, mais qu'on a quand même donné, les prêts hypothécaires à haut risque, sont passés de 35 milliards de dollars à 332 milliards de dollars, quasiment multiplié par 10. On a bien affaire là à un capitalisme drogué qui, pour survivre, doit diffuser du pouvoir d'achat fictif. Comment ont-ils fait ? Ben, c'est tout ce que vous voyez déjà. Très franchement, ne jetez pas les publicités d'Auchan quand ils vous les envoient. Ne jetez pas les publicités de la Banque Accor. Lisez-les. Vous allez comprendre le capitalisme. Alors, on a prêté à des termes plus longs. Hein ? Moi, je reçois régulièrement de Auchan, vous pouvez maintenant avoir une cagnotte sur les 3 ans. Puis après, c'est sur les 5 ans, les 10 ans. Donc avec des termes de remboursement de 40 ans aux USA. On a offert ensuite des taux d'intérêt très bas, mais variables dans le temps. C'est-à-dire qui augmentaient à partir de 2 ans. Les 2 premières années, ça va, j'ai l'impression que c'est supportable. Et au bout de 2 ans, le coup près tombe. On a offert également la possibilité de ne payer que les seuls intérêts sans rembourser la dette, dans un premier temps. On a offert également de refinancer les hypothèques en les transformant en marge de crédit personnel. Ça veut dire quoi? Quand le prix du logement a augmenté, donc j'ai acheté ma maison 10 000 euros, et puis comme les prix augmentent, elle est à 12 000 euros, eh bien la banque me dit, vous avez 2 000 euros de crédit que vous pouvez utiliser pour acheter une voiture ou pour etc. C'est-à-dire qu'on a poussé vraiment, systématiquement, au crédit. C'est ce faux pouvoir d'achat qui a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. La baisse du prix de l'immobilier neuf et ancien a entraîné une hausse des taux d'intérêt. Résultat, 2 000 milliards de valeur anéantie, de dollars bien sûr. 1,3 million de ménages ont perdu leur maison en 2007, rien qu'en 2007. Sans compter la multitude des locataires qui se sont évincés, parce que bien entendu, on a poussé les gens à prendre du crédit pour acheter des maisons pour les louer. Et quand le propriétaire fait faillite, eh bien c'est aussi la maison revient à la banque et le locataire est exclu. Ça devrait nous amener à nous interroger sur le véritable projet de M. Sarkozy. Lorsqu'il parle d'une France de propriétaires, lorsqu'il dit tout le monde aura sa maison, c'est ce modèle-là qu'il nous prépare. C'est une manière de ne pas de dédouaner l'État de sa responsabilité de construire des logements sociaux sur une grande échelle dans ce pays. Diffuser l'illusion que tout le monde sera propriétaire dans ce système, c'est ne pas construire des logements sociaux et préparer demain ce type de crise à l'intérieur de la société française. Parce que bien sûr, comment devenir propriétaire quand le pouvoir d'achat diminue? En empruntant avec des crédits qui seront, avec des mécanismes qui seront les mêmes que ce qu'on a pu connaître aux USA. Alors, la crise que nous vivons, si elle est effectivement, si je n'ai pas tort de montrer les enchaînements, eh bien, nous aurions tort de la considérer comme étant un orage qui survient brusquement. Je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre d'économistes marxistes l'avaient prévu et l'avaient annoncé, en particulier Samir Amin, mais surtout, il y a eu des sonnettes d'alarme. Je vous rappelle quand même, parce que les médias ne nous aident pas à nous souvenir, crise mexicaine en 1982, suivie de la crise des pays sous-développés en 83, crise boursière en 87 aux USA, suivie en 89 par la faillite et le sauvetage des caisses d'épargne et de crédit, crise de la bourse de Tokyo, et qui est suivie de la crise immobilière japonaise en 90, nouvelle crise de la dette mexicaine en 95, crise des pays émergents d'Asie en 97, contre-coup de cette crise sur le Brésil, l'Argentine et la Russie, crise de la bulle immobilière aujourd'hui, bref. Il y a eu, depuis le début de la mondialisation, une série de crises que, bien entendu, on essaye de nous faire oublier dès qu'il y a l'impression qu'on en est sorti. En réalité, l'accumulation quantitative de ces chocs crisiques a conduit à une transformation qualitative, qui est la généralisation de la crise de manière structurelle. Nous ne sommes pas dans une crise simplement cyclique qui disparaîtra par une simple injection de liquidité. L'accumulation quantitative depuis 30 ans conduit au fait que pour s'en sortir, je tenterai de le montrer un peu après, pour s'en sortir, il faut inévitablement aller vers une logique de guerre. Or, certains peuvent dire que c'est complètement rêveur, mais si vous cumulez, la guerre est déjà là. L'Irak, l'Afghanistan, la Yougoslavie, ça n'est pas un hasard. Les dominants de la planète ne sont pas devenus fous. Ça n'est pas une haine de l'islam comme ça qui serait réveillée pour... C'est pas ça. Ce sont des intérêts économiques qui les ont amenés à rechercher les idéologies qui vont légitimer les guerres qui sont nécessaires à leur économie aujourd'hui. Juste un chiffre pour montrer l'aspect incontournable de ce que je décris. Il y a 30 ans, le volume des transactions financières, donc ce qui s'est changé dans les bourses mondiales, correspondait à peu près à l'argent dont nous avions besoin pour la production, pour pouvoir acheter, échanger, etc., pour le commerce intérieur et le commerce extérieur. Ce volume de transactions financières est aujourd'hui de 2000 trillions de dollars. On n'est plus dans des millions ou des centaines de milliers, hein, des trillions de dollars Un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, je dis bien 2000 trillions de dollars. Et vous savez de combien est l'économie réelle mondiale ? Ce qu'on produit, l'économie réelle, la base de tout, 44 trillions de dollars. Nous sommes donc avec 2000 trillions de dollars en termes de monnaie fictive et 44 trillions de dollars en termes d'économie réelle. C'est ça la bulle financière. Ça n'est pas quelques financiers véreux, c'est le système qui a besoin de constituer cela. Alors si on a bien compris cet enchaînement de la crise, on peut du coup s'intéresser à la véritable nature de la crise que nous vivons. D'abord, nous sommes en face d'une crise classique de surproduction qui est liée à la nature même du système. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de surproduction ? Marx nous dit dans ses travaux, vous avez dû voir dans les Guignols que les Guignols ont attribué le prix Nobel de l'économie à Marx, et je pense qu'ils ont raison. Marx nous dit la crise de surproduction est inévitable parce qu'on a affaire à une contradiction. Les deux aspects de cette contradiction sont les aspects suivants. Chaque détenteur de capital, imaginez-vous que vous avez de l'argent à investir. Chaque détenteur de capital cherche à maximiser ses profits et donc à diminuer les salaires. Si je veux augmenter mes profits, j'ai intérêt à leur donner le moins possible en termes de salaire. Mais ce même propriétaire de capital, ce même qui a intérêt à diminuer les salaires, se retrouve, une fois que sa production est faite, à devoir la vendre. Or, pour la vendre, ben, il faut que les gens aient du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a là affaire à un système qui se détruit lui-même, qui est dans une contradiction propre à l'interne. D'un côté, j'ai intérêt à diminuer le pouvoir d'achat, et de l'autre côté, je suis embêté par la baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat, pour reprendre là aussi un vocabulaire marxiste, empêche la réalisation de la plus-value. Il est bien beau d'exploiter les ouvriers, je leur prends de la plus-value, mais après, il faut que je transforme ça en argent, que je le réalise avec le langage économique, et pour ça, il faut des gens qui aient le pouvoir d'acheter. Eh bien, quand ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat, qu'est-ce que je fais ? Je diffuse du crédit. Et on a l'explication de cette réalité que nous vivons aujourd'hui. La difficulté de réalisation de la plus-value, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise des débouchés, va être masquée par le crédit. Mais à chaque fois qu'on masque quelque chose, ça revient quelques mois ou quelques années plus tard dans une ampleur encore plus démesurée. Et c'est cela également, cette difficulté à avoir du profit industriel, parce que les gens ont moins d'argent pour acheter, qui va provoquer quoi ? Eh bien, moi, détenteur de capital, pourquoi j'irais me casser la tête à aller investir dans l'industrie pour avoir un profit de 100 euros, alors qu'en allant en bourse, je peux en avoir un de 1000 euros ? Et c'est ce qui explique, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est ce qui explique pourquoi la baisse du pouvoir d'achat ne s'est pas traduite par une augmentation des investissements, parce que pour chacun des capitalistes, c'était plus intéressant d'aller l'investir en bourse. Autrement dit, l'écart entre l'économie réelle et l'économie financière s'accroît jusqu'à l'explosion, et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Cette crise de surproduction classique, parce que ça, avant la mondialisation, on avait déjà ce type de phénomène, mais cette crise de surproduction classique va s'inscrire dans le contexte d'aujourd'hui, qui est le contexte de mondialisation, dans lequel, je vous le disais tout à l'heure, et c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe, les profits ne recherchent pas seulement le taux moyen. Je ne me contente pas d'avoir un profit, je veux le profit maximum. On passe de la recherche du profit moyen à la recherche du profit maximum. Et si je peux avoir plus de profit au Rwanda, eh bien j'irai construire une entreprise au Rwanda. Si je peux avoir plus de profit dans la prostitution, eh bien je créerai une entreprise de prostitution. C'est-à-dire que ce n'est pas la recherche du profit simplement qui détermine aujourd'hui notre économie, c'est la recherche du profit maximum. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi dans le passé ce n'était pas comme ça ? Tout simplement parce qu'il y avait en face des forces populaires organisées. Tout simplement parce que le rapport de force mondiale avec les pays socialistes, avec le tiers-monde qui se battait pour ses intérêts, avec des ouvriers qui avaient des syndicats de lutte des classes, etc., empêchait cette logique du profit maximum de se déployer totalement. C'est le recul de ce rapport de force mondiale qui va expliquer ce qu'ils ont appelé la mondialisation, qui est en fait une mondialisation capitaliste. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on ne ferme pas une entreprise parce qu'elle ne fait pas de profit, on la ferme parce qu'elle n'en fait pas assez. Alors, je ne vous ai pas autant cité Marx simplement par dogmatisme. C'est que cet auteur a travaillé, a fait ses travaux, à un moment où le mouvement ouvrier était faible, au début du capitalisme, à un moment pour lequel ce système n'avait pas de contre-tendance. Il n'y avait pas un mouvement ouvrier fort, il n'y avait pas de pays socialiste, il n'y avait pas les pays du tiers-monde. Et donc, les lois qu'il a mis en évidence sont les lois réelles de ce système. Ce sont des lois qu'on a pu oublier, parce que nous avons tous grandi ces 30 dernières années, ces 50 dernières années, on avait en tête, nationalisation du pétrole en Algérie, réforme agraire, etc., dans plein de pays du tiers-monde, etc. Donc on avait en tête des forces populaires qui se battaient, mais aussi par peur que les gens regardent vers les pays socialistes, eh bien, on a fait des concessions au monde ouvrier ici. Et donc, on a grandi dans un rapport de force qui nous a amené à oublier les lois de fonctionnement du système telles qu'elles sont. Vous enlevez ces contre-tendances, ces rapports de force qui ont obligé le capitalisme à s'adapter, à s'ajuster, pour ne pas disparaître, à faire des concessions. Vous les enlevez, vous retrouvez les lois d'un système pur tel qu'il fonctionnait à l'époque de Marx. Alors, ceux qui ne me croient pas, je leur conseille vraiment même si c'est complexe, mais je rappelle qu'on fait des cours de marxisme, vous pouvez vous inscrire, le livre 3 du Capital, voilà les éléments que Marx cite, les 6 tendances pour augmenter le taux de profit. Donc pour aller vers le taux de profit maximum et pas seulement le taux de profit moyen. Marx nous dit, première dimension, la hausse du degré d'exploitation de la force de travail, c'est-à-dire travailler plus dans le même temps. C'est les cadences, etc. Tous ceux qui ont encore un emploi aujourd'hui, s'ils le comparent à leur emploi d'il y a 15 ans, donc d'un côté, il y a plein de chômeurs dans la rue, mais ceux qui ont encore un emploi bossent plus qu'avant. Donc, premier élément que cite Marx. Second élément, la baisse du prix du capital constant. La baisse des machines, du prix des machines. Ben oui, on a vu tout à l'heure qu'ils n'investissaient plus, qu'ils préféraient aller en bourse. Donc, le capital constant diminue. Troisième facteur que nous dit Marx, la hausse de l'armée de réserve, c'est-à-dire des chômeurs, ce que nous avons aujourd'hui. Quatrième élément que nous dit Marx, la dévalorisation du salaire réel. Vous avez le même salaire, mais vous pouvez acheter moins de choses avec. Tout le monde fait ses courses et tout le monde sait qu'on achète moins. Le caddie, avec la même somme, il est beaucoup moins rempli aujourd'hui. La hausse des exportations peut résoudre la crise des débouchés. Chacun des grands États capitalistes se fait la guerre pour savoir comment on va... Et quand je dis la guerre réelle. Vous voyez tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, les derniers événements. On ne peut rien comprendre si on n'a pas en tête justement cette dimension de débouchés. Et la hausse du capital par action, c'est-à-dire les actions qu'on vend en bourse. On a vraiment l'impression qu'il vit aujourd'hui, ce Marx. Il nous décrit ce que nous vivons aujourd'hui. Lénine, au début de ce siècle, rajoutait 2 choses. En disant, outre cela, il y a 2 autres moyens qui n'étaient pas aussi fortement présents à l'époque de Marx, qui étaient premièrement une économie de guerre, l'armement. Alors, je pourrais vous donner des chiffres tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres à la fin, sur la masse du budget américain consacré à l'armement. Et vous savez que le poste principal du prochain budget français, le poste qui augmente le plus dans le budget français, c'est le poste d'armement. Et secondo, nous dit Lénine, la guerre. C'est-à-dire que l'armement, au bout d'un certain temps, ça n'a de sens que si on utilise les armes, et donc la guerre. Alors, on peut aborder maintenant le dernier élément de mon exposé, les conséquences prévisibles. Premier élément de conséquences prévisibles, l'exacerbation des contradictions entre les grandes puissances. Une guerre est en cours actuellement entre les USA et la communauté européenne sur le plan de la finance. Vous avez tous entendu le plan américain, Paulson, 700 milliards de dollars. Mais par contre, peu de journalistes vous en disent ce qu'il y avait derrière. Est-ce que ces 700 milliards de dollars ont été donnés à toutes les banques qui étaient en difficulté aux USA? Non. On a laissé mourir certaines banques. Et on a donné par contre à d'autres banques. Lesquelles? Eh bien, essentiellement 3 grands groupes bancaires, industriels et financiers. C'est la Citigroup, la JP Morgan Chase et Goldassar, ce qui est la maison de Paulson. C'est lui qui en est le président directeur général. Autrement dit, l'investissement, il profite de la crise. Et l'investissement de la crise, c'est pour créer 3 mastodontes mondiaux au niveau de la finance et au niveau de l'industrie. 3 mastodontes. Dans l'objectif de dominer le monde. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a des gens qui meurent, il y a des capitalistes qui meurent, mais il y en a qui se nourrissent sur la bête et qui en sortent renforcés. C'est pour cela que le plan américain, qui ne donne pas à toutes les banques, mais à certaines, ceux qui vont être les futurs concurrents des autres banques dans le monde, eh bien, achète les titres véreux. C'est du cadeau qu'on donne, on achète des trucs qui n'ont aucune valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est un endettement supplémentaire de l'État américain. Si on veut traduire dans un langage compréhensible pour tout le monde, pour ne pas prendre des trillions de dollars qu'on n'arrive pas à visualiser, bien très concrètement, le plan Paulson, c'est 17 000 dollars de dette supplémentaire pour chaque citoyen américain. Voilà ce que ça veut dire. 17 000 dollars, les enfants compris. Quelle a été la réponse européenne? Parce que ces trois mastodontes, ils ont vocation à quoi? Ils ont vocation à prendre le contrôle des grandes banques européennes. C'est ça qu'il y a derrière. La réponse européenne, ça a été quoi? Ça a été la renationalisation. Ça a été d'acheter des actions à l'intérieur du capital des grandes banques. Pourquoi cela? Pour qu'elles puissent résister à l'offensive américaine. Autrement dit, nous sommes déjà devant une guerre commerciale et financière. À moins d'être complètement naïf et de considérer qu'une guerre commerciale et financière pourra s'arrêter à la finance et au commerce, et de ne pas avoir de leçons de tout le XXe siècle qui nous a montré qu'à chaque fois que la guerre commerciale et financière a atteint un degré exacerbé, ça a débouché sur de la guerre militaire. Guerre militaire qui commence d'abord dans les pays d'Afrique et d'Asie, on s'affronte pas directement, mais on s'affronte dans des pays donnés, puisque c'est des Noirs et des jeunes qui meurent, c'est pas grave, mais qui débouche sur une généralisation, là aussi, à l'échelon en termes de guerre mondiale. Le plan actuel en Europe est une réponse au plan américain. Alors, disons-le d'emblée, ça n'est pas par plaisir que les USA font ça. Cette guerre commerciale, financière, cette volonté de prendre le contrôle de la finance mondiale est nécessaire à la survie des USA. Ils n'ont pas le choix. Et c'est pour cela que on sera tous interpellés sur notre engagement militant, sur ce qu'on veut faire de nos vies, parce que sinon, effectivement, ce sont nous et nos enfants qui paieront. Les USA vivent depuis trois décennies sur une explosion de leur endettement et sont au bord de la cessation de paiement. Un organisme qui n'est pas un organisme d'extrême gauche, qui s'appelle Global Europe Anticipation, donc qui est un organisme des capitaux européens, donc qui fait de la prospective, annonce la cessation de paiement pour l'été 2009. Alors, ceux qui ne pensent pas qu'un État peut être en cessation de paiement, regardez l'Islande. L'Islande est en cessation de paiement. Voilà un État qui est en faillite. C'est très intéressant, d'ailleurs, de regarder l'Islande. C'est quoi l'Islande? C'est le pays qui a le plus dérégulé. C'est le pays qui a appliqué toutes les recettes, encore plus que d'autres. Et c'est effectivement eux qui sont les premiers en situation de paiement. La bourse s'est effondrée en deux semaines en Islande de 76%. Imaginez ce que cela peut vouloir dire. Concrètement, ça peut prendre quelle forme? Ça prendrait quelle forme, la cessation de paiement? Ça prendrait tout simplement qu'un matin, vous allez vous réveiller, allumer votre radio, et on va vous dire, il y a un nouveau dollar aux USA, qui vaut 10% de sa valeur. On a inventé une nouvelle monnaie. Toutes les banques, toutes les industries, tous ceux qui ont des dollars, verront leur pouvoir d'achat de diminuer de 90%. Il suffira qu'ils fassent ça. Alors, à moins d'aller en guerre contre les USA, le monde entier sera devant cette situation de fait accompli. On remarquera d'ailleurs que les réactions en Europe ne sont pas les mêmes et l'ampleur de la crise n'est pas la même. Tous les pays européens qui connaissent la crise la plus forte sont ceux qui ont le plus appliqué les lois de la mondialisation, Royaume-Uni, etc. Et si la France est un tout petit peu préservée, c'est parce que c'est seulement Sarkozy qui a tenté d'aller plus rapidement vers la dérégulation. Autrement dit, l'impact moins grand de la crise en France qu'en Angleterre est lié à l'ampleur de nos conquêtes sociales des décennies précédentes et au fait qu'ils n'ont pas encore eu le temps de nous les reprendre entièrement. Laissons-nous faire et nous aurons ce type de crise à la hauteur des USA et à la hauteur de l'Angleterre. Et puis, autre conséquence prévisible, du côté des pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Ils ont un cerveau. Ils savent ce que c'est que la rationalité. Quel intérêt aurait-il à continuer d'acheter des bons du trésor américain? Ils en ont déjà beaucoup trop pour eux, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne peuvent pas les revendre à l'heure d'aujourd'hui, sinon ça provoquerait le cataclysme mondial. Il suffirait que demain la Chine dise « j'exige le remboursement de tous les bons du trésor américain que j'ai achetés » et c'est le cataclysme mondial. Elle n'a pas intérêt à le faire non plus, parce qu'effectivement, ça provoquerait une situation de blocage de l'économie mondiale, mais elle n'a pas intérêt à en racheter de nouveaux. Autrement dit, tous ces nouveaux bons du trésor que met en œuvre le gouvernement actuel pour financer son plan Paulson, risque d'être en face d'une demande, enfin d'un manque de demande du côté des acheteurs. Déjà, la Chine vient d'annoncer que une des conséquences qu'elle tire de la crise, ça va être le recentrage de son économie sur le marché intérieur. Et c'est tant mieux pour les paysans chinois et les ouvriers chinois qui ont encore besoin de développement, etc. Et donc c'est tant mieux plutôt que d'investir à l'échelle internationale. Autrement dit, alors, c'est la même logique jouera avec le Brésil, la Russie, l'Inde, etc. Autrement dit, la bête américaine est blessée, et lorsqu'une bête est blessée et qu'elle n'a pas d'autre choix, il lui reste une solution, la guerre. On nous a dit également au niveau des conséquences, rassurez-vous, ça n'est pas une crise aussi grave que celle de 29. C'est assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on vous dit dans les médias, si vous avez en tête. Hein, à chaque fois, on ne nous disait pas pourquoi. On nous disait non, ça n'a rien à voir avec 29. Non. C'est l'argument d'autorité, pas d'explication. Ça n'a rien à voir avec 29. Il fallait les croire sur mesure. Or, j'ose dire que, non, bien entendu, ce n'est pas la même chose que 29, c'est pire. C'est pire que 29. Pourquoi ? D'abord parce que cette crise affecte toute la planète. 29 n'a pas affecté toute la planète. Un certain nombre d'États et de nations, compte tenu de l'état de l'économie mondiale, n'étaient pas en interaction immédiate avec la crise. Aujourd'hui, elle affecte et elle affectera toute la planète parce que la mondialisation a produit un degré d'interdépendance sans précédent. Et ces trois dernières décennies rendent dépendantes l'ensemble des pays du monde. Pas seulement la mondialisation abstraite, générale, mais aussi chacun des blocs à l'intérieur. La communauté économique européenne, c'est pour cela que je pense qu'il faut se battre pour en sortir, la communauté économique européenne a construit une interdépendance qui fait que chaque pays européen touché, ça aura des conséquences sur les autres pays. Alors que les économies nationales permettaient au moins un minimum de sauvegarde des intérêts des salariés dans chacun des pays. Second élément qui montre que la crise est pire, le degré de concentration du capital, c'est-à-dire la concentration des richesses, est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'en 29. Autrement dit, quand ils nous disent que c'est pas la même chose que 29, ils oublient de dire que c'est pire. En fait, ils nous disent ça en tentant de nous faire croire que c'est moins important. Je le disais tout à l'heure, c'est également pire que 29, tout simplement parce que le rapport entre la masse des valeurs qui circulent en finance et le produit intérieur brut mondial, il était de 1 à 3 en 29, il est aujourd'hui de 1 à 40. L'écart entre l'économie réelle et l'économie financière. Autrement dit, les gigantesques moyens qui nous donnent mal à la tête, parce qu'on n'arrive même pas à imaginer un millionième de ça et vous pourriez nourrir, arrêter la famine dans le monde, ces gigantesques moyens débloqués aujourd'hui ne sont que des réparations d'urgence. Ils ne peuvent amener au système qu'à gagner un peu de temps, mais ils ne traitent que le symptôme, parce que pour traiter le fond, il faudrait une redistribution radicale des richesses à l'échelle de la planète et à l'échelle de chacune des classes sociales dans chacun des pays. Les évaluations, un minimum sérieuses, c'est-à-dire celles qui ne sont pas pour rassurer, indiquent entre 1 à 1,5% de récession pour l'année 2009. Et ils indiquent également que la récession ne sera pas comme dans une crise cyclique classique, ça ne sera pas une affaire de 3 trimestres, mais ça s'inscrira dans la durée. Alors qui va payer la crise ? D'abord, on peut évaluer le coût de cette crise. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'ancien économiste en chef du FMI, M. Rogoff. Il l'évalue entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars. Aux USA, la situation est claire. On n'a pas besoin de se dire qui va payer la crise, on voit déjà qui la paye. Des centaines de milliers de ménages sont d'ores et déjà dans la pauvreté et dans la misère. Dans les pays du Sud, on annonce que 50 pays vont basculer dans la famine. 50 pays. Avez-vous entendu une seule phrase dans les médias sur les conséquences de la crise dans les pays du Sud ? On a là une hypocrisie et une arrogance des classes dominantes qui, pour nous rassurer, nous parlent de la crise ici, mais oublient de nous dire que leur crise, elle se paye par des morts de faim. 50 pays vont être touchés par la famine. Vous aurez compris ma colère, parce que, et le caractère passionné de ce que je dis, c'est parce que ça se traduit en mort humaine très concrète. Surtout que ça s'inscrit déjà dans une crise alimentaire qui, depuis 2 ans, secoue la planète. Et nous connaissons le scénario de cette crise. Je voudrais juste les rappeler parce que, pour montrer les liens, acte 1, on impose aux pays du tiers-monde la suppression des protections douanières. Comment on l'impose ? Eh bien, on l'impose par les plans d'ajustement structurel. Si vous voulez des crédits, il faut enlever toutes les protections douanières. On l'impose par les accords bilatéraux. Par exemple, la communauté européenne impose à l'Algérie aujourd'hui la suppression de toutes ses barrières douanières. Si vous voulez un accord avec nous. Il faut qu'on puisse vendre nos produits comme on veut dans vos pays. Donc ce n'est pas seulement le FMI, c'est aussi chacun des États, la France et la communauté européenne. On impose ce qu'ils appellent le libre-échange. Acte 2, eh bien, les produits européens et américains, des grandes firmes, des oligopoles dont je vous ai parlé, vont envahir le marché local, y compris on va les vendre en dessous de leur coût de production, pour pousser à la ruine les paysans locaux. Et donc on va faire concurrence aux produits locaux. Et lorsque vous vendez un kilo de maïs qui vient des USA, moitié moins cher qu'un kilo de maïs qui est produit sur place, eh bien le paysan n'a qu'une solution, c'est arrêter d'être paysan, devenir un urbain. Donc il va à la ville pour tenter tenter sa chance. Alors juste un chiffre pour le Mexique. Mexique, pays par excellence du maïs quand même, en termes d'histoire. Eh bien le Mexique... L'exportation du maïs américain vers le Mexique a été pliée par 9 entre 1993, date de signature de l'accord de libre-échange, et 2006. Et puis acte 3, une fois qu'on a détruit les paysans locaux, eh bien on peut augmenter le prix du maïs que l'on vend maintenant à des pays qui n'en produisent plus. Eh bien nous sommes, la crise actuelle arrive dans une situation où la crise alimentaire a déjà fait beaucoup de dégâts, et donc nous allons avoir des famines qui vont se développer. Quant à l'Europe, eh bien, les mesures qui sont annoncées, je vous le disais tout à l'heure, il va falloir financer cet argent. Eh bien, ça sera le budget de l'État, c'est-à-dire vos impôts, c'est-à-dire la baisse des budgets sociaux, etc., et la baisse de votre pouvoir d'achat, direct ou indirect. Selon l'Organisation internationale du travail, et j'en terminerai là-dessus, la hausse du taux de chômage rien que pour l'année 2008, la hausse du chômage pour l'année 2008 est prévue à un niveau de 5 millions de nouveaux chômeurs à l'échelle de la planète. En réalité, depuis 3 décennies, depuis leur mondialisation, 10 à 15% de la population ont profité de la croissance pour améliorer notre situation, avant même que de penser à une autre société. Pour améliorer notre situation, il faudrait au minimum une redistribution radicale des revenus à l'échelle de la planète comme à l'échelle de chacune des nations. En conclusion, et pour ouvrir au débat, je dirais quelques éléments. Premièrement, nous sommes dans un système qui n'accepte l'activité économique que dans la mesure où elle est profitable pour le capital. Productif dans ce système veut dire productif de profit. Il n'est pas productif de biens en général, mais uniquement productif de profit. Eh bien, puisque c'est ça qui provoque la crise, la solution, nous la voyons. Après, comment y aller, c'est un autre débat. Eh bien, il faut aller vers un système dans lequel ce qui se produit, c'est en fonction des besoins humains et non pas simplement en fonction de la demande solvable, c'est-à-dire de la demande qui produit du profit. Deuxièmement, deuxième élément de conclusion, le sauvetage actuel n'est rien d'autre que l'illustration de la maxime ancienne du mouvement ouvrier, privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. Tant qu'il y avait des profits, on a privatisé. Maintenant qu'il y a des pertes, on nous demande de payer. C'est bien cette logique-là qui est en œuvre. Troisième élément de conclusion, Lénine nous disait que nous avions affaire à un capitalisme en putréfaction. Dans un courrier que j'ai reçu aujourd'hui, Samir Amin me disait « Nous sommes face, non pas à un capitalisme en putréfaction, mais face à un capitalisme sénile. » C'est-à-dire un capitalisme qui n'a plus rien de positif à apporter à l'humanité. Et donc, effectivement, si nous voulons que notre sort s'améliore, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Ce n'est pas seulement contre le libéralisme, c'est bien contre le système qui produit cela. Troisième élément, le danger de guerre est plus que jamais d'actualité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit d'offrir un marché aux oligopoles par l'intermédiaire de l'armement. 623 milliards de dollars en 2007 pour l'armement aux USA. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le budget français, la plus forte hausse, c'est le budget de l'armement. Mais il faut également justifier ces budgets. Cet argent qu'on va redistribuer aux oligopoles, comment le justifier ? Si ce n'est en déclenchant de nouvelles guerres. Et on va nous inventer que l'islam est dangereux, qu'il y a du terrorisme, qu'il y a Al-Qaïda, qu'il y a je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, le système a besoin de guerre. Mais pas seulement le système américain, également la communauté européenne. Et donc, on va nous inventer des motifs de guerre. Et ils savent faire, je peux vous assurer. Ils savent bien faire. Troisième élément, eh bien, dans cette concurrence acharnée, les grandes puissances se font la guerre pour contrôler les ressources, et en particulier pour empêcher un certain nombre de pays d'accéder à ces ressources. Il s'agit d'empêcher la Chine d'accéder aux ressources pétrolières et aux ressources gazières et aux ressources minières. Il s'agit d'empêcher l'Inde de le faire. Il s'agit d'empêcher la Russie de le faire. Autrement dit, à part l'Inde, vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Comme par hasard, ceux qu'on nous a présentés dans les médias, comme quand même les Russes dictateurs en Ossétie, quand même la Chine, le Dalai Lama, etc. Relisons tout ce qu'on nous a dit sur un certain nombre d'endroits où il faudrait intervenir, quand même les droits de l'homme, eh bien nous apercevrons que c'est comme par hasard des endroits géostratégiques pour contrôler les ressources et empêcher que des concurrents y accèdent. Enfin, dernier élément en ce qui concerne la guerre, la concurrence commerciale s'est toujours transformée à terme en guerre. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, décidément, les seules actions, j'espère que vous n'en avez pas d'autres, sinon il faut les vendre tout de suite, les seules actions porteuses, c'est bien le militantisme. Investissant dans l'action militante. Merci.
Radio Campus, une radio libre, associative, non commerciale et sans publicité. Et vous pouvez retrouver sur la bande FM 106,6 et sur internet www.campusville.com.